vous invite à tourner avec moi dans le psaume 70-78. Psaume 78. On va survoler le psaume ce matin, ce sera le message. Alors, le titre du message, c'est « Dieu est-il capable? » Dieu est-il capable? On a chanté, non, on ne l'a pas chanté, mais un chant qui dit « Rien n'est impossible à mon Dieu ». Mais dans notre tête à nous, dans notre cœur à nous, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est toujours capable? Est-ce que quelqu'un peut me dire une chose que Dieu n'est pas capable de faire? Voilà. Ensuite, Dieu ne peut pas mentir. Quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas pécher. C'est une deuxième. Troisième. Voilà. Et dans le psaume 78, il y a beaucoup de versets, on ne les lira pas parce que je pense, si je me trompe pas, qu'il y en a 72. Mais on va être capable de se comparer au peuple d'Israël. On fait partie de la même race. On est tous des êtres humains. Et Dieu nous montre combien souvent, à travers ce psaume, Dieu nous montre combien souvent on est des gens oublieux. On oublie vraiment rapidement. Des fois, on se dit, oui, mais moi, ça me prend des années à oublier. Eh bien, vous pouvez rendre gloire à Dieu pour cela, parce que la grande majorité des gens oublient très, très, très vite. Et on le voit à travers le peuple d'Israël, qui, quelques jours après avoir quitté l'Égypte, voulait retourner vivre dans l'esclavage. Et ils avaient déjà oublié les 400 ans d'esclavage qu'ils avaient vécu en Égypte. Ils avaient déjà oublié, que les Égyptiens venaient chercher leurs filles, leurs femmes pour se prostituer. Ils avaient oublié que finalement, ils n'avaient aucun mot à dire. Ils avaient oublié que finalement, pour les Égyptiens, ils avaient moins de valeur qu'un chien. Et ils étaient prêts à retourner en Égypte. Et ils avaient oublié la terre promise que Dieu leur avait donnée. Ils avaient oublié le royaume sur terre que Dieu leur avait préparé. Ils avaient oublié. Et souvent, si on tombe dans des moments de déprime, si on tombe dans des moments de découragement, c'est qu'on a perdu de vue souvent les promesses de Dieu. Hein? Le cantique allait bien tantôt à propos des promesses que Dieu nous fait. Il est fidèle, il est juste. S'il nous a promis qu'il nous accompagnerait tous les jours, et ça jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, vous pouvez être certain que Dieu sera présent. Un homme qui s'appelait Marc marchait le long d'une falaise abrupte. Lorsque tout près du bord, il glissa et tomba. Dans sa chute, il réussit à saisir une branche qui arrêta temporairement sa chute. Il jeta un coup d'œil vers le bas et il vit pétrifié qu'il y avait plus ou moins 350 mètres qui le séparaient d'une mort certaine. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps et qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de pouvoir gravir la paroi de la falaise. Alors Marc commença à crier à l'aide, espérant qu'un passant l'entendrait. Il lui lancerait une corde ou quelque chose du genre pour lui sortir du pétrin dans lequel il s'était trouvé. « À l'aide! » criait-il. « Y a-t-il quelqu'un là-haut? Aidez-moi! » Il hurla pendant des heures, mais personne n'entendit ses cris. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il entendit une voix. « Marc! Marc! Peux-tu m'entendre? »« Oui, oui, je peux vous entendre. Oui, oui, je suis ici plus bas. Je te vois, Marc. Je te vois très bien. Est-ce que tout va bien? » « Oui, mais qui êtes-vous? Et où êtes-vous? » « Je suis Seigneur, Marc, et je suis partout. » « Mais Seigneur, vous voulez dire Dieu? » « Oui, c'est moi. » « Ô Seigneur, aide-moi, je promets que si vous me sortez d'ici, je vais changer de vie, et je vais tout faire pour vous obéir. Je serai vraiment une bonne personne, et je vous servirai tout le restant de ma vie. » « Je te demande pas de faire des promesses, Marc. Laisse-moi juste sortir de ce mauvais pétrin dans lequel tu te trouves, nous pourrons alors parler ensemble. Voici maintenant ce que je veux que tu fasses. Écoute attentivement, Marc. Je vais faire tout ce que tu dis, Seigneur, répondit Marc. Dis-moi seulement ce que je dois faire, Seigneur. Eh bien, Marc, lâche la branche sur laquelle je t'ai accroché. Fais-moi confiance et tu seras sauvé. Il eut un long silence, puis on a entendu Marc hurler. À l'aide! À l'aide! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut me sortir d'ici? Et ça reflète souvent, c'est notre personne, hein? On a la solution, elle se trouve en Jésus-Christ, et on essaie d'aller la chercher dans des êtres humains souvent qui sont incapables de venir, de répondre finalement aux besoins, à notre besoin. Ça nous ressemble un peu, n'est-ce pas? Nous disons que nous voulons servir le Seigneur, que nous voulons connaître sa volonté, et lorsqu'il nous dit ce qu'il veut que nous fassions, nous respectons souvent par rapport à ce qu'il veut, faire dans nos vies. C'était le problème des Israélites. Ils avaient été appelés à vivre hors de l'Égypte et à suivre le Seigneur par la foi. Pourtant, ils semblaient constamment douter de la puissance de Dieu, de ses promesses et même de sa présence pendant qu'ils se trouvaient dans le désert. Nous pouvons résumer l'attitude de leur cœur à travers les paroles qu'ils prononcèrent au verset 19 et 20. Si vous avez votre Bible devant vous, verset 19 et 20. Pardon. Ils médirent de Dieu en posant la question, « Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert? » C'est vrai, il a fait payer le rocher pour en faire couler de l'eau et ruisseler des torrents. Mais pourrait-il nous fournir du pain ou offrir de la viande à tous? Frères et sœurs, vous frapperez sur un rocher pour voir, ça va vous prendre combien de temps à faire sortir de l'eau du rocher. Ils ont vu un miracle s'accomplir devant eux. Ils ont vu tous les miracles que Dieu avait accomplis en Égypte. Et la question qui leur vient à l'idée, c'est « Dieu pourrait-il? » Est-ce que c'est une question que vous vous posez ce matin dans votre cœur? Dieu pourrait-il me sortir du bourbier dans lequel je me trouve? Dieu pourrait-il me sortir de l'épreuve dans laquelle je me trouve ce matin? Dieu pourrait-il? Nous pouvons résumer l'attitude de leur cœur dans ce qu'on nous donne voir au verset 19 et 20. Dieu pourrait-il? C'est-à-dire, Dieu est-il capable? Lorsqu'ils posaient cette question, ils démontraient qu'ils doutaient de tout concernant le Seigneur. Ils avaient donc besoin d'apprendre à lui faire confiance. Je réalise ce matin que nous ressemblons un peu aux Israélites. Nous nous posons souvent la question, peut-être même sans nous en rendre compte, frères et sœurs, mais notre façon d'agir le confirme, Dieu pourrait-il? J'aimerais vous rappeler à partir des Écritures que Dieu est capable, parce que le Dieu que nous servons est toujours le Dieu de gloire qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et que sa fidélité dure éternellement. Il est toujours le roi des rois, et il est encore capable aujourd'hui de faire tout ce qu'il était capable de faire dans le passé. Frères et sœurs, c'est dans le désert de nos vies que Dieu nous apprend à lui faire confiance. Versets 19 et 20, on vient de le lire, et 41, regardez 41. Ils recommençaient à le mettre au défi. Ils offensaient le Dieu saint d'Israël. Entre les versets 19 et 41, ça n'avait pas changé. Et regardez ce qu'on dit. Pourquoi? Le texte nous dit pourquoi. Verset 36. Mais il n'était pas sincère. Ce qu'il lui disait n'était pas vrai. Il ne lui était pas fermement attaché. Il trahissait donc leur engagement envers lui. Lui, Dieu, il gardait son affection, il pardonnait leurs torts, il renonçait à les exterminer. Bien souvent, il retint sa colère, il fit taire son indignation. Frères et sœurs, les versets 7 à 16, 20, non, attendez un peu, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà un peuple qui se disait eux-mêmes être un peuple de Dieu, ils auraient dû faire confiance sans réserve au Seigneur, et pourtant, ils semblaient inconscients de la puissance qui se trouvait au milieu d'eux. Est-ce que cela ne nous ressemble pas encore une fois aujourd'hui? Au lieu de faire confiance à Dieu et vivre par la foi, nous nous inquiétons et nous nous tracassons. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, et j'aimerais me rappeler à moi aussi, que nous avons un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, et ce, sans réserve et sans crainte. Ils avaient une très mauvaise mémoire. Les versets 7 à 16, je ne sais pas si on a le temps de les lire ce matin. On peut les lire, hein? Ouais. 7 à 16. À partir de 5 ans. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Et ça, ça n'a pas changé dans le plan de Dieu. Hein. C'est ce que Dieu veut faire avec nos enfants. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. C'est que vous enseignez vos enfants dans les voies du Seigneur pour qu'un jour, ils puissent apprendre à leurs propres enfants à enseigner les voies du Seigneur. Et ici, à un moment donné, on a une génération qui ne l'a pas fait. une génération où les enfants n'ont pas eu ce témoignage vivant de leurs parents, parce que le seul témoignage qu'ils ont vu de leurs parents, c'était ben Dieu nous fait défaut. C'était des gens qui se tracassaient, c'était des gens qui remettaient toujours en question finalement ce que Dieu leur avait promis. Et finalement, cette génération-là était perdue. Il établit une règle, alors voilà. Verset 8. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres, c'est-à-dire, on parle des parents, donc on va passer par-dessus ça, bien que je viens de le dire. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat, et ainsi de suite. Donc, je trouve verset 16. Hein. Et au verset 20 à 29, ça continue. C'est vrai, il a frappé le rocher pour en faire couler de l'eau et ruisseler des torrents. Mais pourrait-il aussi nous fournir du pain ou offrir de la viande à tous? Et c'est intéressant parce que quand vous lisez le livre d'Exode, à cause du manque de foi du peuple de Dieu, Dieu va dire à Moïse, je vais leur envoyer de la nourriture jusqu'à l'écœurement. C'est le terme hébreu, c'est jusqu'à l'écœurement. Ils vont en vomir tellement que je vais leur en envoyer. Frères et sœurs, même s'il va les nourrir pendant 40 ans, même si leurs vêtements, leurs sandales ne se s'usera pas, ils vont éventuellement remettre en question la fidélité de Dieu. Alors qu'il était présent tous les jours, alors qu'il se manifestait dans l'attente de la rencontre, alors qu'il avait accompli des prodiges incroyables en Égypte, c'est quand même pas n'importe quoi séparer la mer en deux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Exodus. C'est un film qui essaye de simplement de se moquer des 10 plaies d'Égypte. Eh bien, je peux vous faire une confidence. Moi, je les ai vus. J'ai vu ce film. Ça prend plus de foi pour croire ce qu'on essaye de nous faire gober dans ce film-là sur les 10 plaies d'Égypte, comment ça s'est passé, que simplement ce que le texte biblique nous dit, c'est l'intervention divine. Si vous avez une chance de le voir sur Internet ou sur le site, quand il passera à la télévision, je sais qu'il passe une fois, vous allez voir que c'est aberrant. C'est aberrant. En tout cas, pour avoir séparé les eaux en deux, c'est un astéroïde qui est tombé à ce moment-là, pile, qui a ouvert la mer en deux, qui a juste eu le temps, les Israélites ont eu le temps de passer, puis comme par hasard, eh bien, après, eh bien, ça l'engloutit les Égyptiens. Et c'est comme ça pour tous les fléaux que Dieu a envoyés aux Égyptiens. Frères et sœurs, on a un texte biblique, on n'a pas à douter du texte biblique, c'est Dieu qui agit. Ils avaient oublié comment Dieu les avait délivrés des Égyptiens. Ils avaient oublié, encore une fois, comment ils avaient séparé la mer Rouge. Ils avaient oublié comment ils avaient mis leur ennemi en fuite. Ils avaient oublié comment il avait démontré lui-même, à maintes reprises, qu'il était Dieu, qu'il était le Tout-Puissant. Ils avaient oublié la puissance et les miracles que Dieu leur avait témoigné dans leur vie. Frères et sœurs, n'avons-nous pas, nous aussi, de la difficulté à nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans le passé? Combien de fois est-il intervenu dans votre vie, dans ma vie? Combien de fois a-t-il déplacé des montagnes et séparé les eaux de votre vie? Combien de fois a-t-il levé le voile de la tristesse et de la souffrance qui vous écrasait et permettre à la lumière de sa gloire de vous dégayer votre journée? Combien de fois a-t-il parlé à votre cœur pour calmer les tempêtes que vous viviez et vous donner la paix? Combien de fois a-t-il rencontré vos besoins et fait l'impossible pour vous prouver qu'il était Dieu? Combien de fois Dieu a essayé de vous parler et que ne vous l'avez pas entendu? Combien de fois j'ai essayé de me parler que je ne l'ai pas entendu à travers sa parole, à travers un frère ou une sœur? Et combien de fois, frères et sœurs, avons-nous oublié tout ce qu'il avait fait la veille dans nos vies lorsque nous avons dû faire face à l'épreuve qui nous attendait le lendemain? Vous pensez que Jean Métro? Pensez juste à Élie, le prophète Élie? Dieu tue 400 prophètes, faux prophètes. Il entend que la reine Jézabel veut le faire mourir. On le retrouve où? C'est sauvé. Il a oublié déjà tous les miracles que Dieu avait faits. Il s'en va se casser sous un genêt. Et là, il regrette d'avoir vu le jour. Il a oublié complètement tout ce que Dieu avait fait. C'est extraordinaire. Et frères et sœurs, Élie, souvent on a l'esprit d'Élie qui nous anime. On a l'esprit de beaucoup d'autres qui ont animé ces gens qui nous ont précédés. Et le texte ce matin, eh bien, est là pour aussi nous encourager, nous rappeler, nous ramener à la case départ. Si Dieu était assez puissant pour vous sauver, vous amener à vous repentir, à vous détourner de mauvaises voies, ben d'autant plus il est d'autant plus capable de pourvoir à tous vos besoins, de rencontrer tout ce que vous vivez qui est difficile pour vous, mais surtout de vous donner la solution à vos problèmes à travers la parole. C'est un consolateur. C'est quelqu'un qui nous soutient dans l'épreuve. C'est quelqu'un qui est présent dans chacune de nos vies. Les Israélites manquaient d'intelligence lorsqu'ils disaient « Dieu pourrait-il? » Car ils démontraient jusqu'à quel point ils marchaient par la vue. Ils démontraient jusqu'à quel point ils avaient oublié d'où ils venaient et ce que Dieu avait fait pour eux. Et cette même scène, elle va se répéter plusieurs fois au cours du pèlerinage des Israélites dans le désert et même après qu'ils soient arrivés en Canaan. Rappelez-vous, lorsque Moïse va envoyer 12 hommes explorer le pays de Canaan. En explorant le pays, il rencontre des hommes de haute taille, des géants, les enfants d'Anak, que la Bible appelle. Et lorsque les 10 espions incrédules reviennent, incrédules virent ces géants, ils ne les virent très grands, ils se virent eux très petits, au point de se comparer à des sauterelles. C'est ce que le texte biblique nous dit. Et nous retrouvons quelquefois cette même attitude dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes coupables, frères et sœurs, de ce même genre de comparaison. Certains problèmes surviendront dans nos vies, que ce soit dans l'Église, à la maison ou ailleurs. La première chose que nous risquons d'entendre, c'est « Dieu pourrait-il? » Il y en a d'autres qui le disent différemment, disent « Ah non, c'est pas possible que Dieu puisse le faire. » Nous pouvons l'entendre autrement, mais ça veut dire la même chose. Nos doutes disent « Dieu pourrait-il? » C'est ça le doute, c'est ça qui se cache derrière nos doutes. Hein? On remet en doute, on remet en question que Dieu est capable de. Nous faisons ainsi oublier jusqu'à quel point il a été capable d'agir plusieurs fois dans le passé en notre faveur. C'était la condition des gens à cette époque, et j'ai bien peur que nous manifestons souvent la même attitude et qu'il ne devrait pas en être ainsi. Nous pouvons faire confiance au Seigneur parce que nous savons qu'il manifestera sa puissance dans votre vie et dans ma vie. Et une façon de savoir cela, c'est en apprenant à approfondir notre connaissance de Dieu. Frères et sœurs, versets 5 à 7. Dieu est puissant. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, Regardez, versets 5 à 7. Il a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël, et leur donna à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Je me répète, mais je vais leur lire. Ainsi, la génération qui suivrait celle des enfants naîtres la connaîtrait à son tour et pourrait la répéter à ses propres enfants, de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. C'était une promesse que Dieu faisait à son peuple s'il enseignait leurs enfants dans les propres voies du Seigneur. Israël avait vu Dieu demeurer fidèle à sa parole à de nombreuses reprises. Il avait été toujours fidèle pour faire ce qu'il avait promis de faire pour eux. Dieu n'a pas changé, il est toujours ce Dieu, frères et sœurs, qui garde sa parole et tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui le confirment. Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Notre foi, notre connaissance de la vérité repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Vous savez, frères et sœurs, cette petite question que les Israélites se posent dans le désert, Dieu pourrait-il, qui laisse transpirer finalement un esprit de doute, ça peut nous arriver à même se poser la question, Dieu pourrait-il à la fin des temps nous ressusciter? Dieu pourrait-il? Dieu pourrait-il être capable de créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux? Dieu pourrait-il? La question du pourrait-il, c'est la question qui démontre que nous avons un doute vis-à-vis de ce que Dieu peut accomplir dans vos vies, dans ma vie. Dieu pourrait-il? Et nous savons que Dieu peut. On va le voir un peu plus loin. Ayons donc la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Frères et sœurs, Dieu est encore capable d'accomplir des prodiges. Bon, je ne lirai pas les versets jusqu'à 12, mais dans les versets, vous lirez à la maison, versets 4 et 12. Regardez, verset 12, seulement. En Égypte, dans la région de Soane, sous les yeux de leurs ancêtres, il avait fait des prodiges. Et là, il explique tous, les versets suivants, il explique tout ce qu'il avait accompli. Et à travers son histoire, Israël a bénéficié de la présence et de la puissance de Dieu. Et à plusieurs reprises, Dieu a démontré sa puissance au milieu de son peuple. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons partie du peuple de Dieu. Dieu, ce qu'il veut pour son peuple aujourd'hui, c'est aussi de manifester sa présence et sa puissance, comme il a fait pour Israël à l'époque. Dieu pourrait-il le manifester aujourd'hui, frères et sœurs, au milieu de nous? Imaginez voir Dieu séparer la mer Rouge. Imaginez voir descendre la manne du ciel, jour après jour, pendant 40 ans. Dieu fait un miracle, une journée, il descend la manne, mais pendant 40 ans, 6 jours par semaine. Imaginez, et on remet en question la fidélité de Dieu. Il ne faut surtout pas les juger. Parce que rappelons-nous, on fait partie de la même race. Imaginez voir Dieu vaincre tous vos ennemis. Imaginez le frisson qui s'emparait du peuple lorsqu'il voyait sa gloire descendre dans le tabernacle. Vous imaginez voir la gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu, c'est la présence. Quand on parle de la gloire de Dieu qui descend dans la tente de la rencontre, c'est la présence de Dieu. Vous imaginez? Dieu qui est au ciel, qui tient l'univers dans ses mains, descend pour venir parler à Moïse dans la tente de la rencontre. Les Israélites, le texte biblique nous disait qu'ils tremblaient. Ils avaient peur de voir finalement cette manifestation de Dieu lorsqu'il descendait dans la tente de la rencontre. Et imaginez, frères et sœurs, lorsqu'ils voyaient la colonne de fumée et de feu qui les guidait et qui les protégeait, Dieu était en avant, Dieu les guidait, Dieu était présent au milieu d'eux. Il est bon de se rappeler que le Seigneur n'a pas non plus changé dans ce domaine, il se manifeste toujours dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Portez un regard sur les années passées et rappelez-vous les moments où le Seigneur a manifesté sa grande puissance dans votre vie. N'a-t-il pas séparé les eaux pour vous? N'a-t-il pas ouvert les cieux et fait descendre la manne céleste sur votre vie à plusieurs reprises? N'est-il pas intervenu à réponse à vos cris de foi? Et nous pouvons dire ce matin, frères et sœurs, comme le psalmiste, nous sommes dans la joie car Dieu a fait pour nous de grandes choses. Amen. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie parce que Dieu veut continuer à faire de grandes choses à travers nous. Nous sommes dans la joie parce que Dieu veut manifester encore sa puissance à travers nous. Nous sommes dans la joie parce que nous avons la certitude que Dieu est présent au milieu de nous, que Dieu est présent dans notre vie, parce que nous marchons comme lui nous demande de marcher selon les Écritures. Dieu est encore capable de manifester sa puissance, non seulement sa présence, capable d'accomplir des prodiges, mais sa puissance à travers leurs expériences de vie. Dieu a prouvé qu'il était plus fort que tous les obstacles que les Israélites ont pu affronter. Il était plus puissant que leurs ennemis. Il a lui-même prouvé qu'il était supérieur à leur soif et à leur faim. Il était capable de triompher de tout ce qu'ils ont eu à affronter par sa grande puissance. Mes amis, Dieu est toujours aussi puissant aujourd'hui que dans le passé. Sa puissance n'a jamais faibli et sa présence ne faiblira jamais sa puissance. Il est tout puissant et il sera ainsi jusqu'à la fin de aujourd'hui et jusqu'à dans toute l'éternité. Je veux juste vous rappeler ce matin, frères et sœurs, que Jésus a reçu, il nous a dit qu'il avait reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Ce Jésus que nous prions jour après jour, ce Jésus auprès de qui nous nous présentons jour après jour pour lui faire connaître nos besoins, il nous a dit qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, que rien n'était impossible à Dieu, qu'il peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Frères et sœurs, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Notre Dieu est celui que nous servons, peut faire eh bien infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Ça, c'est un beau passage à apprendre par cœur dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Vous priez le Seigneur, vous lui demandez quelque chose, et l'apôtre Paul dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez et de tout ce que vous demandez. Regardez sa patience, verset 38 du psaume. Pour ceux qui ont leur Bible ce matin. Mais lui, il gardait son affection, il pardonnait leurs torts, il renonçait à les exterminer. Tandis que son peuple continue à manifester sa bonté en faveur de son peuple, l'Israélite continue à manquer de foi pour faire confiance au Seigneur comme il le devrait. Cependant, il est écrit à plusieurs reprises dans le psaume que Dieu retenait sa colère contre eux. C'est un autre mot, ça, c'est une expression qui signifie « quand Dieu retient sa colère », c'est simplement pour dire que jusqu'à quel point Dieu a été patient avec eux, qu'il a conduit son peuple comme un troupeau de brebis. Rendons grâce à Dieu que nous servons pour sa patience. Combien de fois il nous a démontré sa patience dans le passé? Il nous est arrivé à plusieurs reprises de ne pas réussir à marcher par la foi dans le Seigneur, et au lieu de nous rejeter, il a continué, et il continue encore aujourd'hui, à nous aimer et à agir dans nos propres vies. Nous avons un Dieu qui est patient, qui nous aime. Nous pouvons lui faire confiance pour tout. Versets 6 à 8. Lorsque nous examinons l'histoire d'Israël et la manière dont Dieu s'est révélé à eux, lorsque nous considérons ensuite la manière dont il a agi dans nos propres vies, et quand nous regardons sa puissance et sa capacité, que devons-nous faire avec ce que nous savons, frères et sœurs? Ces versets nous rappellent en des termes un peu plus clairs ce que le Seigneur attend de nous par rapport à ces vérités. Permettez-moi de partager trois défis auxquels nous sommes confrontés ce matin. D'abord, le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'est le suivant. Se rappeler que nous pouvons faire confiance à Dieu. Se rappeler que nous pouvons faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, on lui partage un besoin. On vit quelque chose d'intense. On n'a pas les moyens de pouvoir faire quoi que ce soit. Dieu lui dit, écoute, révèle-moi, partage-moi ce qui pèse sur ton cœur et fais-moi confiance. Pas facile, ça. Parce qu'on voudrait que le problème se règle aujourd'hui, mais si Dieu dit que, si Dieu, lui, dans sa tête, ça va se régler dans un mois, parce qu'il va en sortir de plus riches bénédictions, ben, il nous demande d'être patient, hein. Heureusement, pas autant que lui, patient. Frères et sœurs, quand Dieu ne répond pas aujourd'hui, c'est-à-dire que ça semble être non, ça veut simplement dire ceci, je te le donne pas aujourd'hui, je vais te le donner dans plus tard, parce que je vais te donner une plus grande bénédiction plus tard. Tandis que si je te la donne aujourd'hui, tu ne seras pas nécessairement aussi reconnaissant que tu vas l'être plus tard. Quand Dieu attend, ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas entendus. Ça veut dire que Dieu a déjà entendu, mais que Dieu veut nous donner une plus grande bénédiction que celle qu'il pourrait nous accorder s'il répondait aujourd'hui. Donc, il va postposer ça à plus tard. Et là, on pourra voir, en portant un regard en arrière, on pourra louer le Seigneur de ne pas avoir répondu le jour même qu'on lui a demandé de lui faire cette faveur. Frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. Hein? Dieu, il vous connaît, Dieu me connaît. Il sait à quel moment nous répondre. Parce qu'il veut se glorifier à travers chacun de nous. Le psalmiste disait à son époque, « Sur lui repose mon salut et ma gloire, il est mon rocher protecteur et c'est lui qui est mon refuge. » Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Et ces versets nous enseignent que nous pouvons lui faire confiance pour tous nos besoins et pour chaque situation. Quand le monde se tord les mains de désespoir et de doute et demande, « Dieu pourrait-il? » Nous qui croyons à la parole de Dieu, nous devrions nous lever et crier à haute voix, « Oui, Dieu le peut. » Lorsque le monde regarde le déclin moral, l'escalade de la violence, les problèmes économiques, le mal qui augmente et qu'il demande, « Dieu pourrait-il? » Nous devons être prêts à répondre, « Oui, Dieu pourrait. » Parce que c'est ainsi qu'il a toujours agi dans sa parole, et c'est encore de la même manière qu'il veut le faire aujourd'hui. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, qui, le cœur en paix, se reposait sur le Seigneur, sachant que Dieu pouvait le délivrer de la gueule des lions. Quant à Darius, le roi, c'est l'inverse qui aurait dû se faire. Darius aurait dû dormir pour avoir une bonne nuit de repos, et c'est Daniel qui aurait dû passer une nuit blanche en voyant les lions qui étaient là. Mais c'est le contraire. Le texte biblique nous dit quand Darius a passé la nuit à se demander si Dieu pourrait le délivrer. Au point du jour, il s'est dirigé vers la fosse aux lions, et en s'approchant de la fosse aux lions, il a dit d'une voix triste, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et vous savez ce qu'avait marqué le roi Darius? On l'a dans le texte ici, dans le verset. « Toi qui sers ton Dieu avec persévérance. » Daniel, il ne disait pas seulement qu'il était un croyant, il le manifestait à travers ses actions au quotidien. Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré? Te délivrer des lions? Daniel a répondu, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Et c'est bizarre, par après, on a pris ceux qui avaient comploté contre lui, avec leur famille, on les a mis dans la cage. On les a fait rentrer dans la fosse aux lions, et ça n'a pas été long qu'ils ont été déchiquetés en mille morceaux. Pourquoi Dieu a protégé Daniel? Pourquoi il ne les a pas protégés? Dieu a puni ceux qui devaient être punis, parce qu'ils avaient voulu en attenter à la vie de Daniel, mais Dieu a envoyé un ange pour protéger Daniel. Pensez à Shédrach, Meshach et Abednego, menacés par Nebuchadnezzar, à être jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé de se prosterner et d'adorer la statue du roi. Ils dirent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Dieu ne les a pas épargnés de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il était avec eux. Pensez à la veuve de Sarepta, lorsque le prophète Élie lui a dit que la farine qui est dans le pot ne manquerait pas et que l'huile qui est dans la cruche ne diminuerait pas jusqu'au jour où l'Éternel ferait tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle devait se dire, Dieu pourrait-il? Le prophète Élie lui a sûrement dit, « Fais ce que je te dis, tu verras que Dieu peut tout. » Effectivement, 3 ans plus tard, elle était toujours en train de manger, alors que tous les gens autour d'elle étaient affamés. Pensez à Paul et Silas, qui après avoir chassé un démon, seront battus de verges et incarcérés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Frères et sœurs, est-ce que vous chanteriez les louanges dans la cellule, dans une cellule, dans le fin fond d'une prison, si on vous mettait en prison par à cause de votre témoignage? Je suis pas convaincu, moi. Je suis pas convaincu pour moi. On est tellement gâtés, on a tellement tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle en Occident. On a tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin de Dieu. Parlez avec les missionnaires qui vont en Afrique. Eux, ils voient des miracles parce qu'il leur manque tellement de choses qu'ils sont obligés de faire confiance à Dieu pour répondre à leurs besoins. On a tout. On est malade. On est malade. Est-ce qu'on pense de prier avant de consulter un médecin? Ou si on appelle tout de suite le médecin, pour avoir une prescription et courir tout de suite à la pharmacie? On a tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que l'Église en Occident est pauvre spirituellement. C'est pour ça que, dans certains milieux évangéliques, on essaie de réinventer l'Église, alors qu'on a tout, ce qu'il faut dans le livre des Actes. Parce qu'on ne voit pas Dieu faire des miracles. Parce qu'on s'appuie sur les hommes pour faire avancer l'Église, alors que c'est Dieu, c'est son Église, c'est Dieu qui fait avancer l'Église. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu alors que leur vie était menacée. Frères et sœurs, si Dieu a pu nourrir son peuple pendant 40 ans, peut-on s'étonner que Jésus, à partir de 5 pains et 2 poissons, a pu nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Peut-on s'étonner qu'il a pu changer l'eau en vin? Le deuxième défi que nous sommes confrontés, c'est se rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Pensez à toutes les fois qu'il vous a délivré lorsqu'il vous a sauvé, qu'il a déplacé des montagnes dans votre vie. Rappelez-vous sa puissance et tout ce qu'il a fait. Dieu est capable, il respectera chaque fois ses promesses pour vous. Que le passé puisse vous rappeler, à lui faire confiance quoi qu'il vous arrive. Que ce fait pour vous dans le passé, que ce qu'il a fait pour vous dans le passé vous rappelle qu'il est encore capable de le faire aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez. On m'a raconté qu'un homme d'un certain âge avait pris l'avion pour la première fois de sa vie, sachant qu'il avait une certaine appréhension de voyager en avion. Ses amis étaient impatients de savoir comment cela s'était passé. Et à la première occasion, ils lui demandèrent s'il avait apprécié son voyage. « Eh bien, leur dit-il, cela n'a pas été aussi mauvais que je croyais, mais je dois vous dire que je n'y ai pas mis tout mon poids. » Je ne sais pas comment il a fait, mais ouais, voilà. C'est de cette façon que certains chrétiens prennent les promesses de la Bible. Ils n'ont aucune difficulté à croire ce qu'elle dit sur le Seigneur Jésus-Christ qui sauve, quiconque place sa confiance en lui pour recevoir le pardon de leurs péchés. Ils savent que leurs péchés sont pardonnés et que le ciel est leur demeure éternelle, mais ils ne parviennent pas à prendre le Seigneur au mot. Lorsque cela s'applique à d'autres domaines de leur vie, ils n'ont jamais mis tout leur poids dans la balance pour croire. Le résultat, c'est qu'ils sont en proie à des doutes, des craintes et des incertitudes. Le troisième défi, c'est le dernier, en terminant, que nous sommes confrontés, c'est le suivant, c'est obéir à ses commandements. Une foi authentique dans le Seigneur se manifeste toujours dans l'obéissance à la parole. Lorsque nous pénétrons dans sa parole et que nous permettons à celui-ci de se loger dans nos cœurs, de nous transformer, alors nous apprenons à lui faire de plus en plus confiance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En terminant, frères et sœurs, il m'est arrivé de prendre l'avion pendant que je marchais dans les bâtiments de l'aéroport. J'étais soumis à la loi de la gravité. Lorsque le moment est arrivé où j'ai dû monter les escaliers qui menaient à la porte d'entrée de l'avion, j'ai dû gravir ces marches en utilisant ma force pour soulever mon poids à chaque marche que je montais. En entrant dans l'avion, je me suis assis confortablement dans le siège et j'ai pu me détendre. Et lorsque l'heure de quitter arriva, l'avion commença à se déplacer pour se rendre sur la piste et se positionner. Et le pilote a ensuite ouvert les gaz et les réacteurs ont commencé à tourner à plein régime. Puis, dans un bruit assourdissant, hein, pour ceux qui ont pris l'avion, vous savez le bruit que ça fait quand on démarre, quand on décolle, l'avion s'est mis à avancer de plus en plus vite pour ensuite quitter la piste et monter vers le ciel en direction de la destination prévue. La force de gravité que j'avais employée pour soulever mon corps et entrer dans l'avion était toujours là, essayant de tirer l'avion vers le bas, ainsi que l'ensemble de 150 tonnes qui correspond au poids de l'avion et de son contenu. Mais il y avait une autre loi qui agissait maintenant contre la loi de gravité, une nouvelle loi, c'est la loi de l'aérodynamique. Je vais vous expliquer ce que je vais en venir. Je connaissais rien concernant la loi de l'aérodynamique parce que j'en ai pas besoin au quotidien. Hein, c'est une étude des forces, c'est-à-dire que plus ça va vite, moins il y a frottement et plus finalement tu vas plus rapidement. Mais parce que je me trouvais dans l'avion et parce que je faisais confiance au pilote, je suis décollé du sol avec l'avion. La victoire de l'avion sur la loi de la gravité était aussi ma victoire puisque je suis décollé avec l'avion. Sa vitesse fantastique et toutes les possibilités qui résidaient dans cet avion étaient aussi les miennes parce que je me trouvais dans l'avion. Frères et sœurs, les possibilités qui se trouvent en Jésus-Christ sont aussi les vôtres parce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit, on est entraîné dans le cortège de victoire de Jésus. Tout ce qui est à Jésus est à vous. Tout ce qui est à Jésus est à moi. Sa puissance. Parce qu'il veut travailler à travers nous. Et effectivement, moi, comme passager dans l'avion, je suis rien, je suis un parmi dans l'autre. Et c'est vrai que, en tant que croyant tout seul, je parais être un parmi tant d'autres. Mais en Jésus-Christ, frères et sœurs, j'ai tout ce que Dieu a donné à Jésus, je l'ai pour moi. Le problème, c'est qu'il arrive de nous poser la question, mais est-ce que Jésus peut-il agir dans ma vie? Je vais le dire avant de terminer, c'est un peu plus loin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est pas je peux presque tout, je peux à peu près tout, mais je peux tout. Et c'est donné au chrétien qui vit par la foi. Pas celui qui fait le plus de prières à tous les jours, pas celui qui fait le plus d'œuvres possibles pendant une année. Je puis tout par celui qui me fortifie parce que j'ai placé ma confiance en lui. Et la puissance qui est en lui, parce que je suis uni à lui, eh bien, c'est la même puissance qui est disponible pour moi. Vous dites amen à ça? Ainsi en est-il avec la loi de vie qui se trouve en Jésus. J'ai pas besoin de comprendre la théologie, j'ai pas besoin d'avoir un diplôme en théologie pour en bénéficier. Tout ce que dont j'ai besoin de faire, c'est de faire confiance à Jésus-Christ comme j'ai fait pour le pilote d'avion qui conduisait l'avion. Remarquez que ce n'est pas la mesure de foi que j'avais qui m'a amené à la destination prévue, mais celui qui avait des compétences pour m'y conduire, et c'est la même chose pour Jésus. Si on m'avait dit, Jacques, prends l'avion, ben je ne serais pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Hein? C'est la même chose, si j'essaie par mes propres forces, j'y arriverai jamais. Parce que c'est en Jésus que je peux bénéficier de tout ce que Dieu me promet dans sa parole. Pourtant, il y avait une dame effrayée dans l'avion qui a passé tout le vol dans une crainte terrible. Et pourtant, elle est arrivée à destination en même temps que moi. J'étais aussi fort qu'en celui en qui j'avais mis ma foi. Si ma foi repose en Christ, alors je suis aussi fort qu'il l'est. Remarquez également que je n'ai pas eu besoin d'aider l'avion à voler jusqu'à la destination prévue. Personne ne m'a prié de le faire, ni mis de pression pour faire quoi que ce soit. La puissance était dans l'avion. Il en est de même avec Jésus-Christ. Là, je vous cite le verset que j'ai cité il y a 2 minutes. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il peut triompher dans ma vie sans aucune aide de ma part. La grande différence entre moi et cette femme qui était effrayée, c'est que moi, j'ai apprécié mon vol, mais pas elle. Et frères et sœurs, il y a combien de chrétiens qui n'apprécient pas leur vie chrétienne? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris que leur force, elle se trouve en Jésus-Christ. Et qui tombent dans le piège encore d'essayer par eux-mêmes. Frères et sœurs, c'est pas tout à fait vrai de dire que j'ai remporté la victoire sur la cigarette, que j'ai remporté la victoire sur l'alcool, que j'ai remporté la victoire sur tel péché. En Jésus-Christ, il avait déjà remporté la victoire. Et c'est en lui que je me suis confié pour être délivré de la cigarette, délivré de l'alcool, délivré de tel et tel péché. Par mes propres forces, je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. Et c'est ce que le diable veut, que vous travaillez par vos propres forces et vous allez vous user. Il a tout vaincu, il a accompli la victoire parfaite dans tout ce que nous pouvons vivre. Il a remporté la victoire sur tout chacun des péchés que nous avons affrontés, puisqu'il était sans péché. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté dans tous les péchés que nous sommes tentés, et qu'il a vaincu les péchés, le péché. Et sa grande victoire sur la croix, non seulement il a vaincu le péché, il a vaincu le malin, il a vaincu la mort, et c'est notre victoire. C'est notre victoire à nous, en Jésus-Christ, mais pas parce que moi, je me suis fait crucifier, pas parce que moi j'ai fait ci, pas parce que moi j'ai fait ça, mais en Christ. Frères et sœurs, peut-être que je vous embête avec ça, hein, mais je vais vous raconter quelque chose. Si vous ne voulez pas trouver votre vie chrétienne ennuyante, puis jouer avec les choses que le monde vous offre pour vous désennuyer, vous avez besoin de saisir que votre victoire, elle se trouve uniquement en Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous ennuyer. Il y en a, j'en connais. Je ne dis pas que c'est dans l'Église ici. J'en connais pour avoir parlé avec des gens à l'extérieur. Il y en a, leur vie chrétienne est tellement ennuyante qu'ils en finissent par s'ennuyer, qu'ils finissent par s'ennuyer de leur ancienne vie. Parce qu'ils n'ont pas saisi en Christ et qu'ils essayent pendant des années d'arrêter de faire ci. Puis là, ils sont de plus en plus, ils confessent leur péché. Puis de plus en plus, ils se sentent coupables. Ben oui, hein. Le diable, qu'est-ce qu'il leur dit? Arrête de confesser ça, ça fait 3000 fois que tu le confesses. Il ne t'entend même plus de Père en haut. En Christ. Il dit, Seigneur, tu vois, ça, je ne suis pas capable de vaincre ça. Toi, tu l'as déjà vaincu à la croix. Seigneur, je me repose dans ta victoire concernant ça, Seigneur. Quelle paix, quoi! Mais quelle paix! Quelle paix! Je ne me bats plus! Il s'est battu pour moi! Ça me fait rire, moi, quand les gens du monde me disent « Ouais, ouais, mais Dieu est en haut, il ne comprend pas ce qu'on vit. » Mais mon œil, parce qu'il s'est fait homme pour comprendre ce qu'on vit ici sur la terre. Il a vécu, il a tout vécu ce qu'on vit. Il a passé par les mêmes péchés que nous, il les a eu affrontés. Mais la Bible est claire, il était sans péché. Et frères et sœurs, réjouissons-nous, c'est ce que Dieu veut, ce à quoi Dieu veut que nous rassemblions, c'est extraordinaire. Il veut que nous nous rassemblions. Mais nous ne pouvons pas ressembler à Jésus si nous ne marchons pas dans la victoire que Jésus a remportée sur la croix. C'est impossible. Si nous essayons de ressembler à Jésus par nos propres forces, jamais les fruits de l'Esprit vont se dégager, ça va toujours. Et aux surprises de notre part, ce sera toujours les fruits de la chair qui vont remonter à la surface. Ah, t'es bon toi Jacques, hein? Ah, t'es bon, regarde, t'as réussi à arrêter de fumer pendant 3 jours. Ah, t'es bon, hein? Je suis pas bon à rien, moi. Je ne suis pas bon à rien, mais en lui, oh, en lui, ah ouais. C'est pas moi qui arrête de fumer, c'est le Seigneur qui a remporté la victoire, qui va me délivrer. Moi, je ne peux pas me délivrer de ça. On est esclaves, hein? C'est ça que la loi, c'est ça que Paul parle, hein? Chapitre 7, là. Le Romains chapitre 7. Ouais. Il était sous la loi, il explique que sous la loi, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Hein? Il dit, le bien que je voulais faire, ben c'était le contraire. C'est ça, hein, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 7. Frères et sœurs, en terminant... Il y a un certain nombre de chrétiens qui ne parviennent pas à faire confiance au Seigneur parce qu'ils ont oublié que Dieu peut tout, que rien n'est impossible à Dieu. Par conséquent, ils vivent une vie de défaite et de découragement. Chers amis, il ne doit pas en être ainsi. Si c'est votre cas ce matin, je vous invite à vous en remettre entre les mains du Seigneur, à vous appuyer sur ses promesses, sa victoire, remporter à la croix pour y découvrir par vous-même que Dieu peut tout. Voulez-vous lui apporter vos doutes, vos craintes, vos questionnements et les déposer aux pieds de Jésus ce matin? Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu.